On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir sur France Bleu pour votre émission de confidence. Jusqu'à 22h, on va parler ensemble des prématurés, ces tout petits bébés qui arrivent un peu trop tôt et pour qui on s'inquiète beaucoup aussi. Venez apporter votre témoignage de parents, de grands-parents, d'anciens prématurés aussi. On peut parler également de tous les gens du milieu hospitalier qui peuvent nous rejoindre ce soir. Qu'est-ce qui, selon vous, a été le plus dur? La taille de votre bébé, le voir, l'impossibilité de le prendre peut-être dans vos bras parce qu'il était tout de suite branché de partout, le retour à la maison sans lui, un bébé prématuré est-il un bébé comme les autres ou sera-t-il forcément surprotégé toute sa vie? Les parents sont les bienvenus, les prématurés qui sont devenus grands aussi, le personnel hospitalier. Est-ce que vous avez l'impression, tiens, puisqu'on parle des grands aujourd'hui, que vos parents vous ont un petit peu trop couvé? Par exemple, on vous attend sur France Bleu au 0810 055 056 et pour en parler ce soir, notre grand témoin, c'est Charlotte Bouvard, la fondatrice de SOS Préma. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Vanessa.
SOS Préma, ça existe depuis combien de temps finalement?
Octobre 2004, donc ça fait un peu plus de 12 ans.
Et on a toujours besoin de vous parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré, encadré quand on se retrouve à la maternité avec un si petit bébé.
C'est une fracture immense, donc on en a besoin à plein de niveaux. On a aidé depuis plus de 12 ans plus de 500 000 familles. Parce que la prématurité, c'est 60 000 naissances par an, c'est-à-dire 8% des naissances. Pour vous donner une idée, c'est 180 bébés par jour qui naissent trop tôt dans notre pays.
180 par jour. Ça veut dire autant de familles qu'il faut accompagner, réconforter.
C'est ça, un peu moins avec les grossesses multiples, mais c'est 50 000 foyers minimum par an.
Le personnel hospitalier aussi, vous l'accompagnez, les politiques, vous les alertez. C'est aussi le travail de SOS Préma.
Alors oui, on agit sur plusieurs niveaux parce que en fait le but lorsque j'ai créé cette association, c'était d'avoir une vision globale pour pouvoir avoir un vrai impact. Et on a tout de suite défini trois axes de travail, donc l'aide et le soutien aux familles, la sensibilisation des pouvoirs publics, c'est-à-dire porter la voix du terrain vers les pouvoirs publics et dire là où ça coince. Alors maintenant, avec 12 ans d'expérience, on peut vraiment pointer du doigt des manques, des failles, des idées qu'on a pour améliorer les choses, et tout ce qui est dialogue avec les équipes médicales, donc ça fait partie, alors je dirais pas qu'on soutient le personnel médical, mais en tout cas on essaye de travailler main dans la main avec eux, de les informer sur le vécu des parents pour faire avancer les choses.
On va parler de tout ça et on vous attend surtout sur France Bleu pour venir témoigner ce soir. Vous avez des enfants qui sont nés prématurés. Venez nous raconter votre parcours, vos difficultés, les questions que vous vous êtes posées aussi. On est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, il est question des prématurés. Chaque année en France, près de 60 000 bébés naissent plus tôt que prévu. 1 sur 5 sera d'ailleurs un grand prématuré. Si c'est votre histoire, si ça l'a été il y a quelques années, venez nous raconter ce que vous avez ressenti, parce qu'on passe par plein de sentiments, la culpabilité, la colère, l'incompréhension. Si vous avez vraiment tout compris ce qui se passait d'ailleurs entre la couveuse et l'incubateur par exemple, comment vous avez géré le retour à la maison sans votre bébé, et puis surtout venez nous donner des nouvelles de ces tout petits qui sont peut-être devenus grands aujourd'hui. 0810 055 056, on se dit tout avec ce soir Charlotte Bouvard, la fondatrice de SOS Préma. Et on va démarrer l'émission avec Laurence qui nous appelle en Basse-Normandie. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Votre fille est née à 7 mois.
Ma fille est née à 7 mois. J'ai été hospitalisée à 6 mois de grossesse pour une toxémie gravidique. Et à l'époque, mon gynécologue m'avait dit on était deux cas par an en Basse-Normandie. Il a fallu que je tombe dans les deux cas. J'ai été hospitalisée au CHR de Caen, où j'ai eu honnêtement une super, où il y avait une très bonne ambiance, de très très bons médecins, et ça s'est bien passé.
C'est-à-dire que là, quand vous arrivez à 6 mois, vous savez que vous pouvez accoucher d'un moment à l'autre?
Voilà, tous les jours, quand j'étais hospitalisée à 6 mois, tous les jours, je ne savais pas si j'allais être accouchée ou pas, parce qu'on m'a fait une césarienne, bien évidemment. Tous les matins, je n'avais pas mon petit déjeuner comme tout le monde. J'avais des prises de sang dès le départ. Il fallait que j'attende les résultats pour savoir si finalement on allait m'accoucher ou pas. Et le 15 février 93, au matin, j'ai appris suite aux résultats qu'il y avait qu'on allait m'accoucher. Donc j'ai eu une césarienne.
Comment vous réagissez à ce moment-là, Laurence? Vous faites les calculs dans votre tête?
Moi, très très mal. Mais bon, finalement, ma famille était plus au courant que moi, parce que quelque part, je me rendais pas vraiment compte de ce qu'il y avait. Mon mari était plus au courant, ils avaient pris à part mon mari et ma famille, en disant que qu'ils attendaient finalement pour me faire ma césarienne. Honnêtement, moi j'étais un petit peu dans le, comme on dit, un peu dans le chou, et je ne savais pas ce qui allait vraiment m'attendre. Et finalement, ça s'est bien passé, elle va prendre 24 ans, et c'était un bébé formidable, et j'ai jamais eu aucun problème avec elle.
Mais on va quand même reparler de ses premières heures, de ses premiers jours avec ce tout petit bébé. Elle naît à 7 mois, c'est évidemment très tôt. Comment vous réagissez à ce moment-là? Est-ce que vous comprenez bien tout ce qui se passe? Est-ce que vous avez la possibilité d'être auprès d'elle?
Oui, parce que il m'emmenait tous les jours, j'allais la voir dans la couveuse, où je ne pouvais juste la toucher comme tous les prématurés des bouts des doigts. Et puis au bout de, parce qu'elle est restée quand même un mois là-bas, elle est sortie qu'à 7 mois. Au bout des, enfin, 7 mois, enfin, elle est restée un mois là-bas. Et au bout de 3 semaines, j'ai pu, ils ont pu me la donner et on a pu la baigner. J'ai pu la baigner dans un tout petit lavabo parce que c'était pas des, à l'époque c'était pas des petites baignoires. On avait juste un petit lavabo pour la laver, ça suffisait bien d'ailleurs, vu la grosseur.
Je vous coupe un peu, Laurence, parce que là, ça a quand même pas mal changé ça, Charlotte, le fait, quand Laurence nous dit « je pouvais à peine la toucher des doigts », vous militez justement et pour qu'on puisse avoir un contact très vite avec un bébé, même s'il est prématuré.
Absolument. Comme dans les pays du Nord, en fait, où il a été prouvé scientifiquement aux États-Unis, en Suède et partout, y compris en France, que ce qu'on appelle les soins de développement, c'est-à-dire les soins centrés sur l'enfant et sa famille, améliorait l'état de l'enfant, l'état de la famille en règle générale. Et ça comprend du pot à pot dès le plus jeune âge. Même des enfants qui naissent beaucoup plus tôt doivent aller, vont très rapidement, dès qu'ils sont stables, on va dire, dans les bras de leur mère. On milite pour qu'il n'y ait pas de séparation. Là, Laurence, vous nous disiez je pouvais aller la voir tous les jours et on milite pour qu'il n'y ait pas de séparation, pour que les parents puissent rester H24 s'ils le veulent auprès de leur enfant qui a vraiment besoin d'eux, et ce lien qui est difficile à créer peut s'améliorer si les parents sont là.
Et ça a été bien entendu par le milieu médical, parce que c'est peut-être eux aussi qui étaient réticents. On se disait, pour le moment ils sont branchés de partout, on n'y touche pas. Ça y est, c'est rentré vraiment dans les mœurs.
Je pense qu'au départ, en fait, la néonate, c'est une science qui est finalement assez récente. C'est les années 60 en France, on commence à réanimer les enfants dans les années 60. On les réanime, il faut qu'ils vivent. Ensuite, on se rend compte que tout ce qui est positionnement, etc., dosage d'oxygène, ça a un impact sur le devenir. Donc, on améliore tout ce qui est médical. Et puis, on se rend compte que ça suffit pas. On se rend compte qu'un enfant, c'est pas un enfant tout seul. Un enfant, c'est un père, une mère, un entourage, et qu'il y a et que ce lien familial et tout ce qui va avec, ça a un impact. Et vous savez comme moi que la vie d'un adulte est conditionnée beaucoup par les premières heures de l'enfant.
Merci Laurence d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. Vous aussi, vous êtes les bienvenus, vous avez la parole. On parle ce soir des prématurés. Alors, pas forcément d'il y a 50, 60 ans, parce que les choses n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, mais plutôt sur ce qui s'est passé pour vous il y a quelques mois, quelques années. C'était peut-être il y a 10 ans, 15 ans. Peut-être que c'est encore tout récent et que c'est même parfois difficile d'en parler, mais on est là pour le faire tous ensemble. Comment vous avez réagi? Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui a été compliqué, le plus compliqué peut-être aussi? Et puis qui vous a aidé, qui vous a accompagné aussi dans ces premiers jours, ces premiers mois? Les prématurés, c'est le sujet d'On se dit tout avec vos appels au 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Aujourd'hui, dans le monde, un enfant sur 10 naît prématuré, ce qui représente quand même 13 millions de naissances. Donc non, vous n'êtes pas tout seul, même si vous avez l'impression qu'à ce moment précis, le ciel vous tombe sur la tête, l'inquiétude, la peur, la couveuse, les examens, un bébé tout petit, si petit, à qui on parle parfois à travers une vitre en plastique, un bébé qui nous fait peur aussi, qu'on a peur d'aimer. Vous avez peut-être connu ça, venez nous raconter votre parcours durant ces premières heures, ces premiers jours, ces premiers mois. 0810 055 056, nous sommes avec Charlotte Bouvard de l'association SOS Préma et avec Christelle maintenant qui nous a rejoint depuis le Puy-de-Dôme. Bonsoir Christelle.
Oui, bonsoir.
Vous avez votre grand garçon, on peut le dire, hein, il a 8 ans aujourd'hui, qui n'a pas toujours été grand, qui a été même très très petit, Christelle.
Oui, exactement. Il est né à 7 mois de grossesse à peu près. Il était miniature parce qu'il faisait 36 cm pour à peu près 1,2 kg.
Oui.
Voilà.
C'est une grossesse, un accouchement qui a été déclenché ou vous avez accouché
oui. Ouais. Non, c'est un accouchement par césarienne déclenché suite à un problème d'hypertension dans mon cas et de retard de croissance pour lui. Mmh. Donc, il était préférable pour notre survie à tous les deux de déclencher l'accouchement. Donc après 3 semaines de surveillance à l'hôpital.
Ça arrive souvent, Charlotte. C'est souvent des accouchements qu'on déclenche quand on a des enfants prématurés.
Je crois qu'il y a à peu près la moitié des prémas qui naissent justement. On appelle ça de la prématurité induite, c'est-à-dire qu'on estime avec les progrès de la science que l'enfant ou la maman ne vont pas bien et que l'enfant s'en sortira mieux à l'extérieur du ventre en fait. Et ça fait augmenter les chiffres considérablement, mais ça sauve les enfants.
Et là, ça veut dire que vous n'aviez pas forcément prévu ça tout de suite, Christelle. Comment on s'organise à ce moment-là? Comment on se prépare aussi à ce moment?
Honnêtement, on ne se prépare pas vraiment. Ça reste un énorme traumatisme, puisque quand on décide de faire un enfant, on ne s'imagine pas qu'on peut interrompre la grossesse à tout moment. C'est quelque chose qu'on n'envisage pas. En tout cas, dans notre cas, on n'avait pas pensé. Donc, c'est pas quelque chose qu'on avait préparé et ça nous est tombé dessus comme un accident de la vie, en fait. C'est un accident de voiture, on ne prévoit pas. Bah, c'est un peu la même chose sur une naissance prématurée.
On sait que la naissance, l'arrivée d'un enfant, c'est a priori la plus belle chose qui doit nous arriver. Là, vous parlez d'accident. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment, on s'en veut, qu'on est en colère aussi?
Pas vraiment en colère, mais énormément de culpabilité, puisque à un moment, je me suis demandé quel genre de maman je pouvais être pour pas avoir réussi à garder dans mon ventre mon propre enfant, d'avoir mis sa vie en danger ainsi que la mienne, alors que finalement, on n'y est pour rien, puisque c'est la nature qui le choisit, mais c'est énormément de culpabilité que j'ai réussi à surmonter grâce à l'association, et ça, je les remercierai toute ma vie de leur accompagnement au quotidien et j'ai eu à de nombreuses reprises Myriam au téléphone qui est la psychologue de l'association qui est juste fabuleuse, qui trouve les bons mots pour remonter le moral et pour nous aider à comprendre que finalement la culpabilité on n'a pas à en avoir puisque on n'y est pour rien en fait.
Ça revient souvent ça la culpabilité ce mot Charlotte et les sentiments qui vont avec aussi.
Toujours. Oui, toujours. Et ce qui est important, et ce que nous explique notre psychologue, donc Myriam Danet, dont vient de parler Christelle. Bonsoir Christelle. Merci pour votre témoignage. D'ailleurs, sur l'association, c'est toujours très émouvant de se dire qu'on aide des gens, voilà, comme ça, et que l'association a été faite pour ça. Et Myriam parle souvent du fait que quand quelqu'un dit « je me sens coupable », etc., on a tendance à dire « mais non, c'est pas de ta faute ». Et cette culpabilité que la maman exprime est très importante.
Il faut savoir l'entendre.
Il faut savoir l'entendre, juste entendre, écouter, en fait. Et ça fait partie, oui, ça fait partie, bien sûr. Mais c'est comme un accident de voiture, comme disait Christelle, c'est-à-dire j'aurais pas dû traverser à ce moment-là, ou j'aurais pas dû accélérer, si j'étais partie plus tard, parce que j'avais été accompagner mon enfant à l'école. Enfin voilà, on se refait le film et on se dit, voilà, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça. Non, c'est on comprend, on finit par comprendre que c'est les aléas de la vie. La vie, elle comporte des inattendus, des beaux inattendus ou des moins beaux, des difficiles ou très difficiles. Ça fait partie des traumatismes.
Quand vous nous avez appelé, Christelle, vous nous avez dit, et je le vois sur votre fiche, le lien a été dur à mettre en place avec votre fils.
Complètement. Pendant la césarienne, en fait, j'ai pas entendu mon fils pleurer, je ne l'ai pas vu. Il a été emmené tout de suite en salle de réanimation, puis après dans sa couveuse au service de réanimation. Et je l'ai vu 36 heures après la naissance, en fait, puisqu'il a fallu que je reste alitée suite à la césarienne. Et du coup, quand on m'a présenté mon fils, il était dans une couveuse. Ça aurait pu être l'enfant de n'importe qui. Je le reconnaissais pas comme étant mon propre enfant. Donc le lien était très compliqué à mettre en place, ainsi que l'allaitement. Et j'ai réussi vraiment à mettre un lien en place au 5e jour de vie de mon fils, en fait. Donc ça a été très très compliqué en tant que maman de se dire qu'on reconnaît pas son propre enfant, que on peut le toucher à travers la couveuse, mais on a peur de lui faire mal, on a peur de vraiment le toucher. et de pas pouvoir prendre dans ses bras contre soi, de rien pouvoir faire pour lui qui est intubé dans sa couveuse, c'est quelque chose qui est très compliqué. Enfin, pour moi, qui a été très compliqué, et j'ai réussi vraiment à mettre un lien en place avec lui que le jour où une infirmière a bien voulu me le mettre contre moi, en peau à peau, dans les bras, parce qu'elle voyait ma souffrance, et c'est la seule façon qu'on a réussi, enfin qu'elle a réussi à trouver pour que je puisse enfin être la maman de ce petit bout dans cette boîte, en fait.
Charlotte Bouvard, vous vouliez réagir à ce que dit Christelle, ça arrive souvent, on a envie de dire c'est normal, quelque part.
Oui, mais surtout, je voulais lui demander quel avait été le déclic, mais j'ai eu la réponse dans la fin de la phrase.
C'est
le pot à pot. Que, Christelle, je peux vous demander, est-ce que c'est cette pratique du pot à pot il y a 8 ans, est-ce qu'elle était, est-ce que finalement c'est une fleur qu'on vous a faite ou est-ce que c'était courant?
Je pense que pour moi c'était un cadeau puisque j'ai une amie qui a accouché la semaine dernière à l'hôpital où j'ai accouché. Pas forcément envie de dire vous, mais je sais que le pot à pot n'est pas encore fait en systématique 8 ans après. Donc je pense que c'était plus une fleur qu'on m'a fait à ce moment-là que vraiment quelque chose de courant dans cet hôpital.
Oui, on voit qu'il y a des disparités quand même sur l'accompagnement, sur l'accompagnement des mamans.
Énorme. Vraiment, alors, le problème de ces disparités, c'est que les équipes sont un peu paumées. D'abord, changer des pratiques avec des preuves scientifiques, ça demande du temps, ça demande de se remettre en question. Mais aujourd'hui, j'allais dire, il n'y a presque pas d'excuses, quoi. Enfin, je suis pas, au contraire, hein, je suis vraiment, on travaille avec les soignants, mais je veux dire, il y a un moment donné où quand on voit les preuves scientifiques, quand on voit que les enfants s'en sortent mieux, quand on voit que les familles s'en sortent mieux, faut y aller, quoi. Faut changer ses pratiques.
Ça coûte quoi?
Ça coûte de la formation.
Ouais.
Ça coûte du personnel. C'est-à-dire,
quand on met... rester là avec, avec la maman et bébé.
Ouais, absolument. Et quand on met une maman en peau à peau, il faut être, par exemple, si l'enfant est intubé, ça prend du temps, il faut être formé, ça prend du personnel, c'est-à-dire il faut plusieurs personnes, il faut qu'il y ait un environnement sécure. Et là, on en revient à l'action qu'on fait auprès des pouvoirs publics, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, 60 000 naissances, 8%, en 95, 5,4%, il est temps de réagir. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur tire les cheveux, les oreilles.
Vous envoyez des cartes postales aussi?
On envoie des cartes postales, ouais, mais c'est pas des cartes postales de vacances, c'est des cartes postales pour les engueuler, en leur disant maintenant ça suffit, voilà les conditions dans lesquelles vivent certains parents, ça veut dire assis sur une chaise en fer, devant une couveuse ou un tabouret, 10 heures par jour, ça veut dire pas de salle par an, alors qu'il y a des parents qui passent 3 mois, 6 mois à l'hôpital, ils ont même pas un endroit pour aller se poser, manger un sandwich ou se reposer juste 3 secondes. Ça veut dire, je sais pas, donner le parking gratuit aux parents. Ça commence à se faire dans certains hôpitaux, mais il y a 270 services de néonates et on est loin du compte. Donc c'est 15 euros par jour pour certains parents. Il y a des parents qui dépensent un SMIC par mois pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois pour aller voir leur enfant à l'hôpital. Ça plonge des parents dans la précarité, c'est la double peine. Donc il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ces enfants-là, c'est nos adultes de demain, je le dis souvent. C'est notre avenir, donc qu'est-ce qu'on veut comme société de demain? Voilà.
Christelle, votre petit garçon, donc il a 8 ans aujourd'hui, comment il va?
Il va très bien.
Ouais.
On a eu une chance fabuleuse, c'est que sur la prématurité, je pense que c'est moi qui ai gardé le plus de séquelles de nous deux. Et donc on est ravis puisqu'il est en pleine forme.
Et vous regardez avec lui les photos de quand il était tout bébé?
Oui, ça nous arrive.
Ouais.
C'est quelque chose, il est au courant de son parcours.
Oui, c'est important pour lui. Ouais.
Pour lui, je ne sais pas. Pour nous, en tout cas, oui. Pour qu'il sache, lui, il ne s'en est pas vraiment rendu compte. Donc, c'est plus notre histoire à nous de famille que vraiment son histoire à lui.
Et merci de l'avoir partagé avec nous, surtout Christelle, ce soir. Et on sent que 8 ans après, il y a encore beaucoup d'émotions hein, quand même.
Oui, toujours. Je voulais juste remercier Charlotte pour cette magnifique association qu'elle a créée, parce que vraiment, sans l'association, je pense que j'aurais sombré dans une profonde dépression. Et vraiment, merci de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous continuez de faire.
Merci Christelle. Je le partagerai avec l'équipe parce que, j'insiste, je suis loin d'être seule. Et toute seule, on fait rien. Ensemble, on fait des grandes choses. Donc, et on est nombreux et il y en a beaucoup qui entendront avec bonheur ce que vous venez de dire.
Merci encore Christelle, on vous embrasse. Au revoir. Les prématurés, c'est le sujet dont se dit tout avec vos appels, vos témoignages, vos souvenirs, avec encore parfois beaucoup d'émotions hein, des années plus tard. 0810 055 056 pour vous nous raconter comment ça s'est passé pour vous. vous.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et on se dit tout sur les prématurés. Ce soir, des bébés qui viennent plus tôt que les autres, qui sont souvent plus fragiles et pour qui on se fait surtout beaucoup de soucis. Vous avez eu un enfant préma, grand préma. Venez nous raconter comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez ressenti et vécu en néonatalité quand vous alliez le voir en couveuse, comment le personnel médical vous a accompagné et puis comment s'est passé aussi le retour à la maison. 0810 055 056 pour témoigner jusqu'à 22h avec notre grand témoin Charlotte Bouvard de SOS Préma. Et nous sommes avec Mauro en région parisienne. Bonsoir Mauro.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous parce que c'est intéressant aussi d'avoir l'avis du personnel soignant. Vous avez été soignant pendant 8 ans dans un service de néonat. Vous avez dû en voir passer plein des très petits bébés Préma.
Oui, enfin des petits bébés Préma. C'était une néonat de niveau 2, donc ce sont des néonates qui accueillent des bébés de plus de 32 semaines de gestation. Donc moins de soucis, on va dire, des soucis différents, des soucis qui sont moins graves, en quelque sorte, que ceux qui naissent à 24, 25, 26 semaines.
Mais ça n'empêche pas que les parents sont tout aussi inquiets.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, mais ça reste une naissance qui n'était pas programmée pour cette date-là, et les bébés sont quand même très, très fragiles, bien entendu.
Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure de Christelle, de Laurence, on parle beaucoup du pot à pot. Est-ce que vous, c'était quelque chose qui était mis en place systématiquement?
Oui, on le proposait, tout à fait. On le proposait. Généralement, c'était très, très bien accepté, effectivement. Et c'était des moments un peu particuliers, très bénéfiques pour le bébé, bien sûr. Oui, absolument. J'ai proposé à des papas. Alors, c'était quelquefois un peu plus compliqué à ce qu'ils prennent la décision, en quelque sorte, à ce qu'ils acceptent, si on veut. Mais le fait d'être aussi un homme, peut-être que ça a facilité certaines choses.
On n'a pas eu de papa depuis le début de cette émission. Charlotte Bouvard, les papas, c'est vrai, c'est plus compliqué pour eux de prendre ce tout petit bébé sur eux, avec eux.
Oui, certainement. C'est peut-être moins, naturel, mais je pense que si on leur explique les bénéfices du pot à pot, la question se pose plus. Et on va dire que dans certains endroits, on en est au balbutiement du pot à pot. Donc on n'a pas forcément l'idée tout de suite de dire aux parents, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Donc là, à mon avis, dans ce que je sais, les pères se posent plus la question.
Vous aviez quel rôle, vous, Mauro? C'était quoi votre...
Moi, j'étais auxiliaire de puériculture, c'est-à-dire que je travaillais avec la puéricultrice ou l'infirmière du service.
Est-ce qu'il faut être psy un peu quand même, sans le vouloir, on est obligé quand on passe comme ça d'une chambre à l'autre?
Oui, bien sûr, il faut comprendre les difficultés que rencontrent les parents à ce moment-là, bien sûr.
Vous sentiez qu'il y avait besoin de beaucoup plus de temps, de dialogue aussi avec eux?
Oui. Beaucoup plus de temps, et ce qui était intéressant aussi, c'était pas seulement de s'occuper du bébé, mais également de discuter avec les parents, de parler. Ils avaient souvent beaucoup de questions à poser, ne serait-ce que quand est-ce que je vais pouvoir sortir, mais voilà, un bébé en néonat, on peut pas prévoir comme ça trop longtemps à l'avance quand est-ce qu'on va pouvoir sortir. C'est en fonction du développement du bébé et comment se passe ces premières semaines, ces premiers jours et ces premières semaines dans le service de néonat.
Ça, c'est une vraie question, Charlotte. Oui. Quand on sait que, pour la maman, ça y est, l'accouchement et les suites de l'accouchement, c'est terminé. On sait que le bébé doit rester. Comment ça se passe pour les parents en ce moment-là? Ils peuvent rester ou ils doivent rentrer à la maison à un moment donné?
Ça dépend des endroits. Si je vous emmène en Suède, ils y habitent là-bas et tout est prévu. Donc, il y a des lits doubles. Il y a des salles parents dignes de ce nom, des salles soignants aussi de repos, parce qu'il ne faut pas oublier les soignants. On parle beaucoup de bien-traitance des soignants. Il y a des laveries au milieu de... Voilà, il y a des distributions de... Enfin, il y a des appareils pour distribuer des plats surgelés. Tout est prévu pour ça. Et en fait, en France, on n'a pas encore compris, en tout cas dans la plupart des endroits, que finalement, on ne soigne pas que l'enfant, on soigne une famille. Et pour ça, il faut prévoir. Et pour ça, il faut que les politiques en aient conscience et mettent les moyens. Donc, je reviens toujours à ça, mais je crois que c'est le nerf de la guerre.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de garder une maman, un papa
On ne se donne pas les moyens. Ou en tout cas, on ne leur donne pas les moyens. Je pense que de plus en plus de soignants ont conscience que maintenant, il n'y a, y a pas, Il n'y a pas à tergiverser, c'est l'avenir, c'est ça. J'ai déjà entendu des soignants me dire l'avenir de la néonate, c'est les parents. Ben oui, oui, parce qu'encore une fois, c'est une famille. Maintenant, il faut des moyens pour changer les architectures d'hôpitaux, pour changer les pratiques, donc des formations, pour équiper des hôpitaux. Nous, à l'association, nos antennes locales, on a 70 antennes, ce sont des parents correspondants locaux qui récoltent des fonds sur en local, en fait, pour équiper les hôpitaux. On achète des lits d'appoint, on achète des transats d'allaitement, on achète des tire-laits, on achète des coussins d'allaitement. Et souvent, on nous rétorque que ça s'appelle du matériel de confort. Donc, je m'énerve un peu souvent.
Oui, vous avez raison, il faut s'énerver. Donc, ça veut dire aussi des allers-retours à un moment donné, du temps passé sur la route, alors qu'on pourrait être auprès de son enfant.
Sur la route, et puis certaines familles sont, enfin toutes, hein, mais on a vraiment des familles qui nous appellent, qui sont plongées dans une souffrance. On entend de plus en plus, d'ailleurs, on voit vraiment depuis 2 ans, c'est un bon baromètre de ce qui se passe dans notre société, des fossés qui se creuse, de plus en plus de familles qui nous appellent en nous disant « j'ai pas les moyens de mettre de l'essence dans ma voiture, je ne peux plus aller voir mon enfant ». Et ça fait 1 mois qu'il est en néonate, il en a pour 2-3 mois. Et je reviens à la question donc, que vous souleviez tout à l'heure, c'est la question du « chaque jour est un jour de gagner ». Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait que 2 jours avant que l'enfant va pouvoir sortir. Mmh. Alors, il y a des étapes qui sont passées. Mais le temps est suspendu, donc on vit au rythme de ses progrès, de ses moins bien. C'est terrible à vivre, mais si en plus on nous dit qu'on n'est pas les bienvenus, qu'il faut payer 15 euros par jour de parking, qu'il y a 2 heures de transport, qu'on n'a pas les moyens de tout ça et qu'on n'est pas accueilli, voilà, là on marche sur la tête.
Mauro, merci d'avoir pris la parole ce soir et d'être venu aussi porter la parole du personnel soignant. On vous remercie encore et on vous souhaite une excellente soirée sur France Bleu. Venez nous rejoindre si ce que vous avez entendu, ça vous rappelle quelque chose. Pas forcément que des bons souvenirs, parce que là, de ce que vous parliez, Charlotte Bouvard, c'est compliqué quand même. Hein. C'est la double peine, comme vous disiez. On parle des prématurés ce soir sur France Bleu, de leur famille, du quotidien, des difficultés parfois aussi. 0810 055 056.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on parle des prématurés ce soir jusqu'à 22h avec vos témoignages et en compagnie de Charlotte Bouvard de SOS Préma. Maïlis nous a rejoint depuis les Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Maïlis.
Bonsoir à vous.
Alors vous, on peut vraiment parler de grand préma avec votre bébé qui est né à 31 semaines.
Oui.
Là, c'est vraiment grand préma. Hein.
Alors j'ai eu de la chance, entre guillemets, dans mon malheur, entre guillemets pareil, c'est que comme j'étais hospitalisée un peu avant, j'ai eu droit à des piqûres de corticoïdes dans les surrénales, je crois que c'est ça, pour tenter de faire maturer les poumons en avance.
Ah, d'accord.
Donc du coup, quand du jour au lendemain, ils ont décidé, suite à une détresse fœtale, de déclencher l'accouchement par césarienne, ça a été... on s'y attendait, mais on...
Mais on n'est jamais vraiment préparé, hein.
Non, on n'est jamais vraiment préparé à ça. En plus, on n'est jamais préparé... c'était il y a 4 ans et demi, je savais pas du tout à quoi pouvait ressembler un prématuré. On a toujours des images tragiques dans la tête, c'est malheureux à dire, mais... le seul préma que je connaissais, moi, c'était une très très grande préma il y a 15 ans à peu près. Elle était née à 24 semaines et vraiment derrière elle a eu du mal à grandir, des choses comme ça. Donc le seul préma de référence que j'avais, c'était cette jeune fille là. Et quand on m'a dit qu'il fallait le sortir en avance, on s'est mis à angoisser là-dessus, déjà savoir comment ça allait se passer pour lui, pour moi. Mais derrière, est-ce qu'il allait être intubé, est-ce qu'il allait pas être intubé, on est toujours dans l'expectative, on sait pas. Comme je dis aux gens autour de moi, quand des gens ils disent « Ah oui, on sait un préma », non, vous avez pas eu un préma, vous pouvez pas savoir ce que c'est. C'est malheureux à dire, mais bon, voilà.
Et ça a été compliqué pour vous, je crois aussi, entre vous et votre fils, le rapport entre vous et votre fils dans les premiers jours, un petit peu ce qu'on a entendu aussi tout à l'heure.
Oui, dans les témoignages, ouais. Oui. Exactement. Ben oui, parce que moi, en fait, j'ai eu une césarienne sous anesthésie générale, sur laquelle il a fallu la surdoser parce qu'apparemment je me suis réveillée ou quelque chose du genre. Donc du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me réveiller. Et derrière, moi j'ai été hospitalisée pour un autre problème. C'était pour ça que j'étais suivie j'avais un lupus en fait. Et du coup, j'avais un risque de prématurité, mais on s'y attendait pas. Et donc, en fait, moi, je crois, si je me trompe, je sais qu'en salle de réveil, il me l'avait amené en couveuse, puisque il respirait tout seul. Apparemment, ça a été le grand... en salle d'opération, ça, il s'attendait à l'intuber, en fait. Et c'est le père de mon fils qui me l'a dit. L'infirmière qui s'attendait à intuber vite le bébé. Et en fait, il s'est mis à pousser un cri et à respirer. Et elle lui a raconté qu'elle a hurlé dans la salle, « Il respire, il respire !» Donc du coup, ça s'est resté. Et donc, voilà, fait, moi j'ai mis du temps, je l'ai vu. La seule chose que j'ai su, il ressemblait à un tout petit chimpanzé. Il faisait 1,3 kg pour 38 cm. Il ressemblait à... Je lui ai demandé pardon. Voilà, la culpabilité de... Voilà, pourquoi... Et si on avait fait ci, si on avait fait ça. Et du coup, il est monté en néonat. Alors, c'était une néonat de niveau 3. C'est un grand hôpital dans la région. Et moi, j'étais en soins intensifs. Et donc, du coup, c'est le papa qui a pris le relais. Donc, avec de suite du pot à pot, beaucoup de temps avec lui, jusqu'à ce que moi, je puisse commencer à aller le voir. On m'a proposé, même si moi aussi j'étais sous perfusion et lui aussi en fait, de faire du pot à pot aussi. Donc ça a été fait. L'équipe de néonat a été extraordinaire. Enfin, moi c'est comme ça.
Mais pourquoi vous nous avez dit, parce que j'essaie d'accélérer aussi un tout petit peu, Maïlys, pourquoi vous nous avez dit le papa a joué le rôle de la maman, vous avez joué votre rôle vous aussi, Maïlys?
En fait, moi j'ai eu beaucoup de mal parce que derrière j'ai eu une infection nosocomiale. Donc moi j'ai été hospitalisée de mon côté, je ne pouvais pas forcément aller voir mon enfant souvent. Et du coup... à 4 ans et demi après, on a amené voir notre fils voir une pédopsychiatre parce qu'il avait des crises, des choses comme ça. Et en fait, je lui ai posé la question de savoir pourquoi son père agissait avec lui de tant maman poule et moi plutôt fais ta vie, fais tes expériences. Et en fait, en racontant cet accouchement, cette façon et ses premiers jours après, et ben elle nous a expliqué que ça pouvait découler de là, du fait que moi j'ai été moins cela pour lui et lui plus là pour son fils, avec le pot à pot. Fait, même si j'essayais d'y aller souvent, le lien, il est difficile. On est derrière une couveuse, on est derrière, même si on peut le prendre hein, ou passer les mains, le lien est toujours pas facile et pas toujours facile à
Et le lien peut être aussi compliqué entre les deux parents. On peut le dire ça aussi, Charlotte, quand on accueille un enfant préma, le couple prend aussi un coup.
Oui, bien sûr qu'on peut le dire. C'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de couples qui se sentent très seuls là-dedans. On a beaucoup de couples qui se séparent, qui rencontrent des difficultés. Le problème, c'est qu'on vit les mêmes choses, mais pas au même moment, pas de la même façon. Et comme toute difficulté dans une famille, en fait, ça peut creuser les différences. Chacun peut réagir différemment et prendre des chemins différents. Mais je voudrais juste revenir, si j'ai le temps, sur le témoignage de Maïlys. Je comprends ce que vous dites. J'ai un souci avec le mot... mais voilà, j'ai entendu, il ressemblait à un petit chimpanzé et je trouve ça très dur. Voilà, c'est très très dur. Alors vous êtes maman de préma, donc je me dis vous avez tous les droits, mais moi ça me...
J'ai vu votre réaction tout de suite.
Voilà.
Maïlys, merci de nous avoir appelé, de l'avoir partagé aussi avec nous. On va continuer d'écouter vos témoignages sur les prémas, les grands prémas après les infos de 21h. Vous aussi venez nous rejoindre au 0810 055 056. Nous sommes toujours avec Charlotte Bouvard de SOS Préma. À tout de suite.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les prématurés, leurs parents, leurs grands-parents aussi, l'environnement, c'est le sujet dont on se dit tout ce soir avec vos souvenirs, les questions de l'époque, les angoisses, la culpabilité, on l'a entendu, et surtout avec vos témoignages de parents, comme celui de Laurent qui nous appelle de Gironde. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Vous avez un petit garçon qui est né à 6 mois.
Oui, c'est ça.
Oui. Comment ça s'est passé pour vous en tant que papa? Vous êtes le premier papa de la soirée, en plus c'est important d'avoir l'avis des papas.
Oui, mais j'ai écouté l'émission depuis le début et puis vous avez parlé justement en disant que vous avez évoqué le cas des papas. On n'entend pas souvent les papas parler de la prématurité ou voilà, sur ce sujet, c'est souvent les mamans qui parlent de ce sujet-là. Nous on a eu beaucoup évidemment d'interrogations, beaucoup de doutes. Et avant la naissance, évidemment, et puis après. Mais parce que en fait, c'est allé très vite. Ma femme a eu des problèmes. Elle a eu des problèmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail hein, parce que c'est une partie du corps qui est difficile d'évoquer comme ça à l'antenne. Mais et puis ça s'est enchaîné et en 3-4 jours, eh bien, l'enfant est arrivé. Voilà. Et puis voilà, il a fallu faire avec. Et donc avant, on a posé des questions. Après, on a posé des questions et on a vécu 2 mois et demi dans un service de néonatologie. Voilà, avec plein de... Il y a eu des moments de doute et d'angoisse, mais il y a aussi des belles choses. Hein. Il n'y a pas que, de la, que du mauvais, quoi.
C'est quoi les premières questions? Les questions que vous vous posiez à ce moment-là, c'était lesquelles en particulier? Vous vous en souvenez? Les angoisses que vous aviez, les interrogations aussi?
Eh bien, est-ce que même si on arrive à faire naître des enfants à 6 mois et à les faire vivre et à les faire évoluer, puis qu'il y en a qui vont très bien, c'est pas la nature. Un enfant, il arrive pas à 6 mois, il sort pas à 6 mois. Un enfant. Et voilà. Et donc on se dit, est-ce que qu'est-ce qu'il va y avoir comme problème? Donc on pose plein de questions aux chefs de service, aux péricultrices, aux infirmières. Et alors on n'a pas toujours les réponses parce que voilà, il y a des questions qui sont assez précises. Et voilà, donc il y a toujours des réponses, mais c'est un peu, vous voyez, on n'a pas toujours les réponses qu'on précise, quoi, à nos questions.
Elles sont normales, ces questions, elles sont légitimes. Charlotte, est-ce que mon enfant va être comme les autres? Est-ce qu'il va bien grandir, bien se développer? C'est normal qu'on se les pose?
Bien sûr, tous les parents, bonsoir Laurent, tous les parents se projettent en fait. Et ce qui est difficile avec la prématurité, c'est que d'abord on ne veut pas se projeter dans l'immédiat, puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain quand on est à l'hôpital. Et puis après, il y a des questions qui peuvent durer longtemps, parce qu'on estime... quel âge a votre enfant, Laurent?
Ah, il a 7 ans et demi aujourd'hui. Voilà.
On estime que déjà à l'entrée à l'école, si on n'est pas convoqué par la maîtresse, ouf, on est passé à travers les mailles du filet. Et puis et on estime à 7 ans à peu près, pour les très grands prémas, que voilà, c'est derrière nous. Mais oui. C'est très compliqué. Et je pense que Laurent, vous soulevez aussi le problème de suivi. Si on se pose beaucoup de questions à 7 ans ou à 4 ans, enfin voilà, c'est que souvent en France, le suivi n'est pas du tout efficace. Ou pas
on
assez,
devrait avoir plus cas. De rendez-vous, plus de suivi.
Pas forcément plus dans certains cas, mais on estime qu'il y a à peu près la moitié de la France qui est bien suivie au niveau prématurité et nouveau-nés vulnérables, c'est-à-dire des enfants qui ont eu des problèmes à la naissance. On n'a pas les moyens, en fait. On ne donne pas les moyens aux équipes de suivre ces enfants-là. Donc, et ce qui est très compliqué, c'est qu'on met des critères. Par exemple, on va suivre les moins de 32. Sauf que une maman a dit tout à l'heure, j'ai eu de la chance, le mien est arrivé à 31, mais j'ai eu des piqûres de corticoïdes qui ont accéléré la maturation des poumons, donc ça veut dire certainement pas de réanimation. L'enfant allait bien par rapport à un enfant de 33 semaines qui est arrivé comme ça du jour au lendemain, et là, lui aurait peut-être besoin, et s'il y a une grande détresse respiratoire, il aurait besoin d'être dans un réseau de suivi.
C'est pas la même chose, voilà. Ouais.
Donc en fait, quand je parlais de soins centrés sur la famille et l'enfant, c'est des soins individualisés, et ça va aussi dans le suivi. Mais on n'a pas les moyens, on se donne pas les moyens.
Et à quel moment, Laurent, vous avez soufflé? À quel moment vous vous êtes dit, ça y est, tout ça, c'est derrière nous, on va pouvoir avancer, on va pouvoir grandir aussi avec notre fiston?
Alors, excusez-moi, j'ai la voix enrouée,
c'est la saison.
Et oui. son travail. Quand on a changé de couveuse, déjà ça a été un premier soulagement, c'est-à-dire que l'enfant n'avait plus toute la machinerie avec les
tuyaux, ouais.
Parce que ça aussi c'est assez angoissant quand on retrouve l'enfant dans une couveuse avec des lumières qui s'allument partout, ça fait très très bizarre au début. Alors quand il a commencé à changer de couveuse et qu'il était plus que sur une table chauffante, c'était donc vraiment, il était plus fermé. Et là, on le voyait vraiment tous les jours, et il était presque comme dans comme n'importe quel bébé, quoi, dans un lit. Et puis voilà, quoi. Sauf qu'il avait il était relié avec une petite machine, je crois, pour la température, ou je sais plus, il y avait le son de cardiaque, enfin voilà. Et après, évidemment, quand on nous dit que vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir, vous pouvez rentrer chez vous, votre enfant il va bien. Hein. Quand on vous dit ça, là c'est super, quoi. On peut rentrer à la maison, on souffle. Voilà. Mais vous parliez tout à l'heure, vous évoquez le personnel. Moi je profite de passer à l'antenne pour faire un petit coucou et surtout rendre hommage aux gens qui le personnel médical qui travaille dans la réanimation de ces tout petits bébés. Parce que c'est des conditions de travail absolument dantesques. Il y a une température de folie. Et puis, le personnel soignant est au petit soin, il se relaye. Il y a des protocoles vraiment très, très ficelés. Et quand on va voir son enfant dans le service de réanimation, hein, je parlais au tout début, eh ben là, c'est très, très impressionnant. Et vous parliez aussi, un petit peu après, du pot à pot. Nous, on était dans un service où, justement, on nous a presque imposé le pot à pot. Vous voyez, on ne l'a pas imposé, mais on nous a dit ça serait bien que vous fassiez du pot à pot.
Et très vite, tout de suite. Ouais.
Voilà. Et je peux vous dire que la prématurité, on s'en serait passé. Mais vivre ces moments de pot à pot, c'est des moments qu'on vit tous les jours, qu'on a fait tous les jours pendant un mois et demi. Et c'est des choses que les parents d'un enfant qui arrive à terme ne font pas, ou très peu. Nous, on a eu droit à ça tous les jours, et on voyait l'enfant sur notre corps faire corps avec nous, c'est bien le cas de le dire, caler sa respiration sur notre respiration, et être détendu, être super bien, alors qu'on venait, on arrivait, il était un peu énervé, vous voyez. Et là, à ce moment-là, on voyait, il y avait une osmose, quelque chose d'unique. C'est unique à vivre, voilà. C'est des grands moments de la prématurité.
C'est beau comme témoignage. Déjà, c'est bien qu'on ait un papa, parce que vous le dites, hein, c'est souvent les mamans qui témoignent. Déjà, c'est souvent les mamans qui témoignent quand on parle des enfants, mais encore plus ce soir, effectivement. Merci beaucoup, Laurent. Charlotte, quand on entend le témoignage de Laurent, il y a plein de choses dedans. Déjà, le pot à pot, l'accompagnement.
Je retiens deux choses. C'est d'abord rendre hommage aux soignants, et pas seulement en réa, tous ces soignants qui ont une réelle vocation d'être auprès de ces familles. Et effectivement, c'est des conditions difficiles. Et c'est pour ça que je parlais de la bientraitance des soignants. Quand on va en Suède et qu'on voit les salles de repos pour les soignants, c'est juste hallucinant de se dire qu'on n'a pas le dixième de ça en France. Et je retiens aussi ce qu'il a dit, c'est-à-dire des moments positifs. Alors, le pot à pot, c'est magique. Mais j'ai entendu un jour un papa qui m'a dit « La prématurité, ça nous a fait sortir le meilleur de nous-mêmes. » Et dans cette difficulté de vie, si on arrive à la surmonter, voilà, grâce à l'assaut, grâce à l'entourage, voilà, grâce au couple aussi, c'est vrai que c'est des moments merveilleux, et on ressort grandi de ça.
Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir appelé. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu. Et on continue, bien sûr, d'en parler avec vous, qui êtes parents de préma, de grands préma. C'est peut-être d'ailleurs tout récent. Peut-être que vous nous écoutez là en ce moment à la maison, avec un tout petit bout à la maison. Peut-être aussi que votre enfant est toujours hospitalisé et vous êtes rentré. Ça, c'est vraiment encore plus compliqué. On parlait de double peine tout à l'heure. Et puis, c'était il y a peut-être plusieurs années déjà, mais avec toujours autant d'émotions quand vous y repensez. Vous avez eu recours à l'association SOS Préma, vous avez eu cet appel, cette permanence téléphonique. Venez nous raconter aussi comment ça se passe, comment on fait la démarche, comment on est accompagné, parce que c'est important. 0810 055 056.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Née parfois tout juste 6 mois de grossesse, pesant seulement quelques centaines de grammes, les Préma sont des bébés très particuliers. Et on en parle ce soir avec vous, parents de ces tout petits bébés qui arrive un peu trop tôt et pour qui on s'inquiète beaucoup aussi. 0810 055 056 pour nous raconter comment ça s'est passé pour vous, les questions, les interrogations, le mélange des sentiments aussi, et puis les infrastructures. Est-ce qu'elles sont vraiment bien aujourd'hui pour des parents quand on est parent d'un préma, d'un grand préma? Venez apporter votre témoignage en compagnie de Charlotte Bouvard de SOS Préma, qui est notre grand témoin. Et nous partons tout de suite à Perpignan chez Gwenaëlle. Bonsoir Gwenaëlle.
Oui, bonsoir.
Alors vous êtes une maman de triplés.
Voilà, c'est ça.
Alors déjà, avoir trois enfants d'un coup, c'est pas simple, mais qu'en plus ils sont préma, grand préma pour vous, hein, 26
exactement.
Semaines.
26 semaines, voilà, c'est ça. Donc on s'y attendait pas du tout, parce qu'on n'avait pas été préparé à ce qu'il puisse arriver si tôt. Donc c'est un peu une catastrophe, on est un peu dans une vie parallèle. Et il faut s'occuper et gérer ses émotions pour plusieurs enfants en même temps. Et s'inquiéter plus ou moins pour l'un, pour l'autre, avec des parcours compliqués. Donc vraiment, moi, on l'a vécu un peu comme une vie en parallèle. J'ai toujours dit qu'on était un peu sur une voie de... une piste cyclable. Et on gérait des trajets parce qu'ils n'étaient pas dans les mêmes hôpitaux. Ils ont été séparés, donc on a vraiment vécu des moments...
Comment c'est possible, ça, Gwenaëlle, que vos enfants soient séparés, pas du tout dans les mêmes hôpitaux?
Alors, en fait...
C'est pour des questions de santé, de soins?
Pour des questions de place, en fait.
De place?
Voilà, donc j'en avais deux bébés là où je suis, là où j'ai accouché. Et le troisième a été transféré dans un autre hôpital. Donc, on faisait les allers-retours tous les jours, plusieurs fois par jour même. Tout ça en allaitant, tirant son lait, en s'inquiétant à distance pour l'un ou pour les autres.
C'est hallucinant.
Et ça, c'était vraiment le plus difficile. Ils ont été regroupés au bout de 2 mois dans le même hôpital parce qu'on a insisté beaucoup. Et donc voilà, c'était vraiment très compliqué pour nous, pour notre couple aussi surtout, de s'inquiéter pour plusieurs enfants en même temps avec des dangers, on va dire, qui planaient au-dessus de chacun d'eux. Hein. Et on était seuls en fait, la famille ne comprenait pas, enfin se mettait un peu en retrait. Je pense qu'on vit tous un peu ça avec la famille qui reste à côté mais qui sait pas trop quoi dire. Les grands-parents, les frères, les sœurs, etc. Donc on était nous deux dans notre petite bulle. Et moi je pensais vraiment pas qu'un bébé puisse vivre à 5 mois et demi de grossesse. Enfin, ça me semblait vraiment impensable. Et qu'on était les seuls à vivre ça. Et à un moment donné, l'infirmière nous a donné une valise bleue. Et nous a dit, voilà, il y a une association qui existe, c'est SOS Préma, et puis voilà la valise. Alors, on a eu une valise pour 3 bébés. Donc, on était bien contents et on y a trouvé des petits flyers, un numéro de téléphone. C'était l'association SOS Préma, donc qui a été jusqu'à encore maintenant même... ma bouée de sauvetage.
Et, là, vous vous êtes dit, il faut qu'on en profite, c'est une chance.
J'ai été sur Internet, parce que c'était il y a 9 ans, donc c'était... tous les réseaux sociaux n'existaient pas comme aujourd'hui, donc, mais j'ai toujours espionné un petit peu cette association qui... Je me suis dit, il y a des gens qui sont comme nous, qui vivent aussi ces mêmes inquiétudes. Et d'ailleurs, je voulais remercier Charlotte Bouvard parce que d'avoir créé cette association, d'avoir permis à des parents comme nous de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Et aujourd'hui, nos enfants ont 9 ans, donc ils vont bien, ils sont en pleine forme. Tout va bien, mais on a vraiment eu besoin moi surtout, de me raccrocher à des gens qui ont vécu la même expérience parce qu'on pensait vraiment pas que...
C'était quoi le plus important? C'est d'avoir le soutien et la permanence avec la psychologue ou d'échanger avec d'autres parents?
Alors, c'était même pas parce qu'à cette époque-là, il y avait... Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une permanence téléphonique, je me trompe peut-être.
Si, il y en avait une apparemment, ouais.
C'était important de savoir qu'il y avait d'autres gens dans cette situation. Mmh. Et que on n'était pas les seuls. Voilà, c'était vraiment. Alors j'allais sur le site, je regardais, il y avait des petits forums de discussion. Donc voilà. Et c'était pour moi, c'était ça, c'était vraiment important. Et ça l'est encore aujourd'hui.
Et il y a toujours le forum. Hein. Plus que jamais. Vous y allez de temps en temps rassurer des parents qui viennent d'accoucher de grands prémas comme vous?
Oui, bien sûr, oui, forcément. On entend des parents qui vivent les mêmes parcours, on a envie aussi de se soutenir entre nous, de dire que l'issue peut être belle. Hein. Elle a été pour nous d'ailleurs. Mais oui, c'est important. Je pense que le soutien est vraiment important. On avait le soutien, nous, des personnels soignants qui étaient là, avec qui on tisse des liens, parce qu'on se voit pendant 6 mois tous les jours. Hein. C'est un quotidien. Hein.
Et 6 mois, vous êtes restés au total? Enfin, les enfants sont restés 6 mois?
Mes garçons sont restés hospitalisés 4 mois et ma fille 6 mois.
Oui.
Donc pendant tout ce temps, on côtoie des gens qui deviennent un peu...
Oui, ils font partie de la famille. Oui. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de famille. Ça m'a un peu choquée, Gonelle, quand vous avez dit « on se sent seul, la famille nous laisse un petit peu de côté ». C'est un témoignage qui revient souvent, Charlotte. C'est frères et sœurs, ses grands-parents qui ont un petit peu peur de cet enfant prématuré.
Oui, alors d'abord ils sont surpris aussi, hein. Et puis il y a un phénomène, c'est un peu tabou en fait, la naissance prématurée. Il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'ils peuvent se cristalliser. Il y a des angoisses et ils ont peur de passer leurs angoisses. Les grands-parents sont aussi très angoissés. On a des appels à la permanence téléphonique de l'entourage. C'est très dur parce que quand on a un préma, dans une naissance classique, on a le faire-part, on a des cadeaux, on a des fleurs, des félicitations, et là, rien. Et c'est encore une fois la double peine. Donc, et je pense qu'on peut pas leur en vouloir. Ils savent pas, mais nous, la première chose qu'on fait, c'est de féliciter les parents, c'est de parler de l'enfant avec son prénom. Souvent, on n'ose pas, parce qu'on se dit, s'il vit pas, au contraire.
Mais il est quand même là.
Il est là, et puis, et puis s'il ne survit pas, eh bien, il aura été là. C'est très important de le nommer.
Merci Gwenaëlle de votre appel, de votre témoignage ce soir, et vous ferez un triple bisou à vos enfants, vos deux garçons et votre petite fille. Merci encore pour votre appel. Jusqu'à 22h, vous aussi, vous avez la parole. Vous revenez sur votre histoire avec souvent beaucoup d'émotions, parce que c'est des moments avec des montagnes russes hein, au niveau de ce qu'on ressent. On a peur, on est inquiet, on est euphorique, on sent qu'on va rentrer, que les enfants vont rentrer. C'est pas pour tout de suite, on se pose des questions. 0810 055 056, comment vous l'avez vécu cette période? Parfois, ça dure de nombreuses années avant de se dire, ça y est, c'est derrière nous. On vous attend jusqu'à 22h sur France Bleu avec Charlotte Bouvard de SOS Préma.
Un soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
C'est souvent un stress important de donner naissance à un enfant avant terme, passage en couveuse, intubation et autres gestes médicaux qui sont parfois difficiles à supporter. Le retour à la maison sans le bébé en est encore un autre. Si vous avez connu ça, venez nous raconter par quelles émotions, par quelles étapes vous êtes passé. On se dit tout sur les prématurés et leurs enfants avec votre histoire au 0810 055 056 et avec Charlotte Bouvard de SOS Préma. Et nous partons maintenant à Nantes, rejoindre Régis. Bonsoir Régis.
Bonsoir.
Vous êtes papa d'une petite fille qui est née à 26 semaines.
Voilà, tout à fait, ouais. Elle est née le 29 juillet donc 2009 et elle pesait 780 grammes.
Ça, c'est des chiffres qu'on n'oublie pas généralement. Hein.
Ah non, c'est sûr, c'est ouais, c'est même aujourd'hui, des fois, je me dis quand je les relis, ça me paraît effectivement assez.
Ça paraît fou.
Assez inconcevable, ouais, ça paraît fou, ouais. Mais...
Est-ce que vous avez été bien encadré, bien aidé, bien accompagné?
Alors au départ, j'entendais tout à l'heure la famille, ouais. Alors la famille, j'ai senti aussi ce mouvement de retenue parce que ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quoi faire. Mais moi, ce que par rapport à la famille, c'est surtout la ce que j'avais ressenti, c'est la frustration de pas pouvoir montrer, de pas pouvoir faire voir en fait.
De montrer une photo, même une photo, vous pouviez pas.
Alors non, parce que j'ai voulu faire voir des photos au départ, et c'est les gens qui ne voulaient pas regarder les photos.
Oh, ça doit être encore plus dur, ça, pour vous.
Bah, c'est difficile parce qu'effectivement, on a envie de vous faire voir son enfant. Moi, c'était mon premier enfant, donc j'avais pas forcément de référence. Donc, je m'étais fait, au début de grossesse, je m'étais fait une image de devenir papa, c'est génial. Et puis, bon, bah, voilà, ça s'est cassé un petit peu. Donc, après, en plus, effectivement, ne pas pouvoir la montrer en vrai, c'était frustrant. Quand on faisait voir des photos, bah, les gens avaient ce mouvement de recul, ce mouvement de retenue par rapport à ça. Et puis, effectivement, bon, alors même si aujourd'hui il y a entre guillemets plus de soucis, elle est revenue à la maison. On a toujours quelque chose qui nous ramène à cette période-là. Toujours.
Elle est restée combien de temps à l'hôpital, votre fille?
102 jours.
102 jours.
102 jours, ouais.
Là aussi, on les compte.
On les compte, et puis, c'est ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est que bah, quand ça arrive, on arrête de vivre avec des projets. On vit au jour le jour parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Donc,
vous aviez des inquiétudes à ce moment-là sur votre fille, si elle allait bien se développer, si elle allait vivre correctement. Il y avait toutes ces questions qui se posaient.
Ah oui, bien sûr, ouais, on avait toutes ces questions. Alors c'est vrai que avec le pédiatre de Margot, on pouvait appeler hein, n'importe quand, on pouvait poser toutes les questions. Mais par exemple, moi, lorsqu'elle est née à Nantes, il y avait pas d'endroit, il y avait pas de salle parents à l'époque. Donc en fait, on vivait dans la chambre et puis on sortait. Donc c'était un petit peu embêtant, on va dire.
C'était Régis. Oui. Bonsoir. C'était une chambre individuelle ou c'était une chambre multiple?
Alors en réa, c'était une chambre individuelle. En soins intensifs, elle a eu parfois des petits collègues de classe. Elle était à deux, elle a été parfois à deux, ouais.
Parfois, donc, on voit 8, 10 dans des salles. Donc, c'est très compliqué pour l'intimité de la famille.
Pour se faire un moment à soi. Moi, j'aimerais vous poser une question un peu banale, un peu basique, Régis. Mais 100 jours d'hospitalisation, pendant ces 100 jours, il faut quand même aller travailler, il faut s'organiser. Comment vous faisiez ?
Sincèrement, au départ, j'ai été totalement incapable d'aller travailler. Et puis au bout d'un moment, il a bien fallu reprendre le travail. J'allais quand même tous les soirs, en sortant du travail, la voir au CHU. Et puis on rentrait à la maison à 40 km. Donc des fois, c'était des journées à rallonge. Et puis au bout d'un moment, entre guillemets, on peut plus, quoi. Si physiquement, mentalement, on peut plus, parce que faut se lever quand même à 6h du matin, faut rentrer après le CHU, ça arrivait qu'on reste jusqu'à 21h, 22h, donc après il fallait rentrer. Et puis voilà, c'est comme ça pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis au bout d'un moment, on peut juste plus, le corps il suit plus, quoi.
Mais est-ce que votre patron, par exemple, était à l'écoute par rapport à ça? Est-ce qu'il a compris que vous étiez dans une situation qui n'était pas banale?
Oui, alors j'ai eu cette chance-là par rapport à mon employeur d'en discuter très rapidement avec lui et de lui expliquer la position. J'avais j'avais son accord pour s'il fallait à n'importe quel moment de la journée quitter mon travail pour aller au CHU. C'est arrivé plusieurs fois où en pleine journée j'ai quitté mon travail pour aller au CHU. Après, je suis bien conscient que c'est une chance, parce que je pense que c'est sans doute pas le cas de tous les employeurs, puisque moi-même je pense à des choses au niveau des AJPP où la prématurité c'est très 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 peu connu des services de RH dans les entreprises. Donc c'est moi qui ai été tout expliqué à ma RH sur mes droits en termes de congés, en termes de...
Est-ce que ça change quelque chose, justement, Charlotte Bouvard, quand on est parent d'un enfant prématuré? Est-ce qu'on a des aides? Est-ce qu'on peut avoir un congé maternité, je pense, ou même un congé paternité pour les papas rallongés? Parce que je sais que vous l'avez demandé, l'allongement du congé maternité, vous l'avez obtenu, d'ailleurs.
Oui, en 2006, on a eu du mal à ce que ça soit appliqué, mais on l'a obtenu. Donc ça, c'est pour la maman. Pour le père, on demande un congé. Mais là, je ne sais pas si vous imaginez ce papa pendant 102 jours, tous les jours à son travail, tous les soirs à l'hôpital, alors que sa petite fille, c'est une petite fille, oui, c'est ça,
Margot se battait
pour vivre, au moins dans les premiers jours, les premières semaines. Mais c'est juste, on marche sur la tête, quoi. Que faisait ce papa? Alors, heureusement, il avait vous aviez, Régis, un super employeur, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il faisait à son travail? La loi devrait changer à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce père doit être avec sa femme et avec son enfant à l'hôpital. En Suède, les parents ne sortent pas, ne reprennent pas leur travail tant que l'enfant est encore hospitalisé. Leur responsabilité est à l'hôpital. C'est auprès de leur enfant.
Merci encore, Régis, d'être venu témoigner ce soir. Un gros bisou à Margot. Est-ce qu'on l'a entendu tout à l'heure, Margot? J'ai eu l'impression qu'elle était avec nous, non? Un petit peu, quand même. Alors, à bientôt, Régis. Merci d'être venu témoigner sur France Bleu. Les prématurés pour encore quelques minutes. C'est le sujet d'On se dit tout, et on vous attend, vous aussi, au 0810 055 056.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on parle des prématurés ce soir avec vos témoignages, les prématurés, les grands prématurés. Et nous sommes dans la Drôme maintenant avec Manon. Bonsoir Manon.
Bonsoir.
On ne l'a pas encore évoqué, mais pourtant ça fait partie de la réalité des parents de grands prématurés. Le décès de ces petits bébés, c'est ce qui vous est arrivé, vous, Manon?
Oui, tout à fait. Je suis la maman de Lou, née à 27 semaines et qui pesait 600 grammes. Elle avait un retard de croissance et puis j'ai fait une préclampsie aussi. On a été très entourés par le personnel soignant. Il y a eu deux, trois petites choses qu'on gardera en tête, parce que malgré tout, il y a eu des choses qui ont été dites qui n'auraient pas dû être dites comme ça sur 25 jours. Maintenant, on a quand même eu un parcours de vie avec Lou où le personnel a été très bienveillant. Et malheureusement, c'est vrai qu'on est sur sur un passage où ben on est dans une bulle. Donc les seules personnes qu'on voit toute la journée, c'est le personnel soignant. Et pour le coup, ils auront fait partie de notre vie durant le pire moment et en même temps le meilleur parce que c'est notre première fille. Et aujourd'hui, on en garde quand même malgré tout un bon souvenir.
C'est bien de pouvoir en parler aussi et de pouvoir parler de Lou comme vous faites ce soir, Manon. On en parle beaucoup, effectivement, à SOS Prémas. Ça fait partie de cette, malheureusement, de cette réalité.
Oui, oui, le décès fait partie de cette réalité. Et on essaie de les accompagner au mieux. C'est pas facile parce que je crois que c'est un drame, voilà, innommable. Moi, merci de ce témoignage parce que faut être courageux pour en reparler. Et puis c'est un témoignage positif finalement qui rend hommage aux soignants aussi. Donc voilà, votre petite Lou est là avec nous. C'est ce qu'on dit toujours. Voilà.
Et juste vous remercier parce que je connaissais pas l'association quand Lou est décédée. Autant quand elle a vécu, quand elle est décédée, parce que on était, comme disons, dans cette bulle. Et pour le coup, on n'a pas pris le temps. Et si j'avais su prendre du temps, je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas forcément fait de la même façon. Donc, j'ai connu SOS Préma après, pour ma deuxième. Et pour le coup, un grand merci parce que vos livrets, vos confidences, enfin, tout ce qu'on peut se confier sur SOS Préma nous apporte. Et entre le personnel soignant et bien sûr l'association, ça fait que ça aide énormément. Alors que des fois, les personnes, la famille, les amis, on n'est pas toujours dans des personnes qui peuvent nous comprendre puisqu'elles l'ont pas vécu.
Et votre deuxième fille est née prématurée aussi, Manon ?
Oui, tout à fait.
Oui, à combien ?
Elle est née à 33 semaines.
Oui.
Elle va bien ?
Alors, elle va bien. Elle a eu des tout petits soucis, mais pas de grande importance. Mais elle est sur une prématurité qui n'était pas très grande. Et malheureusement, beaucoup de pédiatres, elle a eu en fait un problème, une insensibilité buccofaciale et qui a été vue à 2 ans et demi. Donc, elle vomissait quasiment tous ses repas, surtout le soir. Et jusqu'à ce qu'on découvre que finalement, au bout de cinq visites aux urgences, c'était dû à sa prématurité. Mais vu qu'elle est née à 33 semaines, malheureusement, pour les médecins, eux, c'était à 33 semaines, c'est pas grave, elle est pas très préma, voilà. Donc, elle est pas préma du tout.
C'est le problème de suivi dont je parlais tout à l'heure. Et ce problème de suivi est accentué par le manque de formation des médecins de ville. Ils sont pas formés à la prématurité. Alors il y a quelques réseaux de périnates qui ont commencé il y a quelques temps à former des pédiatres, mais il y en a pas assez. 8% des naissances.
Et puis il y a pas de règles, ce qui est le cas pour un enfant né à 33 semaines ne sera pas forcément le cas pour un autre.
Exact, c'est toute la complexité.
Ouais. Merci beaucoup Manon d'être venue témoigner ce soir, on vous embrasse très fort et on a une pensée évidemment pour Lou parce que c'est important, on l'a dit tout à l'heure, de parler d'eux, de parler de ses enfants aussi. À bientôt Manon.
Merci Manon.
Merci, au revoir.